France Info.
Bonjour Loïc Signard.
Et bonjour Agathe Lambray.
Vous êtes porte-parole du Parti Renaissance. Alors les européennes sont dans 2 mois et il y a toujours entre 7 et 10 points d'écart entre votre liste et celle du Rassemblement National. Qu'est-ce que vous avez raté ?
Je crois qu'on a moins raté que les Républicains, qui sont à 8%. Je crois qu'on a moins raté que les écologistes, qui sont à 6%. Je crois qu'on a moins raté que Reconquête, qui est en passe de disparaître de cette course aux élections européennes. Je crois qu'au contraire, après 7 ans aux responsabilités, se maintenir aux alentours de 20-21%, ce qui est quasiment le score obtenu par Nathalie Loiseau en 2019, c'est une belle promesse au contraire pour le 9 juin, une belle promesse pour cette campagne qui sera jalonnée de propositions, où nous aurons à défendre un bilan. On ne fait pas campagne sur un bilan, vous allez me dire, mais on fait campagne sur un projet. Et le projet sera développé par Valérie Ayé, notre tête de liste, par les colistiers, par le président de la République.
Mais donc, vous êtes satisfait, Loïc Signard, et vous pensez que vous pouvez talonner Jordan Bardella comme il y a 5 ans?
Je crois que tout sera mis en place pour démontrer, un, que notre projet a été utile depuis 2019 au Parlement européen, que les propositions que nous allons faire sont de nature à faire en sorte que l'Europe fonctionne mieux et qu'elle soit plus utile et plus efficace pour les Françaises et les Français, et surtout démontrer la supercherie du programme du Rassemblement National. Et d'ailleurs, on commence à le voir dans cette campagne, Jordan Bardella contredit Marine Le Pen, quand c'est pas Marine Le Pen qui contredit Jordan Bardella. Donc cette campagne, elle est utile, il reste 2 mois, il va falloir prouver que le projet du Rassemblement National est un projet non pas dangereux, comme certains pourraient le dire, mais surtout inefficace parce qu'ils n'ont pas de projet.
Le Rassemblement National, en tout cas, sait qui sera numéro 1, numéro 2, numéro 3 sur sa liste. Vous, vous ne savez toujours pas. Vous serez sur la liste
Ça, nous verrons. C'est pas à moi d'en décider.
Mais
la liste, non, mais la liste sera connue en temps voulu. La liste, ce sont des personnalités qui sont utiles au Parlement européen depuis 5 ans et qui devront l'être dans les 5 prochaines années avec, et vous l'avez fait remarquer, un danger, le danger d'un Rassemblement National trop fort, trop présent, avec leurs alliés aussi, les néo-nazis de l'AFD en Allemagne, les compatriotes de Viktor Orban, ceux qui luttent contre nos valeurs, ceux qui luttent contre la démocratie. C'est à ça que serviront les colistiers autour de Valérie Ayé, à lutter contre ce projet dévastateur pour l'Union Européenne.
Dans ce contexte, votre projet à vous, c'est de durcir à nouveau les règles de l'assurance chômage, même au sein de la majorité. Cette idée dérange. Précariser les chômeurs, ce n'est pas notre philosophie, dit le président de la Commission des lois, Sacha Houlier. Vous n'avez pas d'état d'âme ?
En tout cas, ce qu'il faut rechercher, c'est l'objectif fixé par le président de la République, et ça fait le lien d'ailleurs avec les deux questions que vous me posez. L'objectif du président de la République, c'est le plein emploi. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que le Rassemblement National, entre autres, prospère ?
Oui. Qu'est-ce qui fait que... parce que le député Gilles Legendre, qui est de la majorité, dit que la recherche du plein emploi, c'est un alibi, que c'est une réforme qui cherche à faire des économies. Vous n'êtes pas d'accord ?
C'est une position personnelle exprimée par Gilles Legendre, c'est pas la même que nous tenons. Je pense que ça reste un objectif atteignable, je pense qu'il faut s'en donner les moyens. Je pense
qu'aussi... Aucune étude démontre que cette réforme servirait à...
Non, mais je pense qu'en revanche, il faut se donner les moyens de ramener les gens vers l'emploi. Ça a été fait par des mesures qui sont beaucoup plus consensuelles dans le pays, la formation continue. Si je prends, et vous parlez de Sacha Houlier, une mesure qu'il a porté le permis à 17 ans. Aujourd'hui, ça permet à des apprentis. L'apprentissage, justement, a explosé depuis 2017 grâce aux mesures mises en place par Emmanuel Macron. Si vous avez le permis à 17 ans, vous avez peut-être potentiellement un job plus facile à obtenir parce que ça vous rapproche de ce travail. Ça, on n'en parle jamais.
Ça, c'est la carotte, mais c'est pas le bâton.
Parfois, il faut la carotte, parfois, il faut le bâton. C'est des droits et des devoirs. En tout cas, objectif, faire travailler les gens. Parce que le chômage, personne n'est heureux au chômage. C'est une situation précaire que personne ne souhaite. Aujourd'hui, en France, je vous donne un exemple. Il faut 6 mois de moyenne au travail pour obtenir 2 ans au chômage. Ce n'est pas possible. Il faut que les gens soient en emploi. Et ça, il faut parfois durcir les règles. Oui, c'est une réalité.
Le gouvernement envisage aussi de baisser la prise en charge des arrêts de travail, c'est-à-dire d'allonger le délai de carence. Là aussi, ça coince au sein de la majorité, à l'aile gauche. Pour vous, c'est une bonne mesure d'économie ?
Combien ça coûte par an, le délai de carence ? 16 milliards. Est-ce qu'on a un différentiel entre le privé et le public ? Oui. Le public, 1 jour de carence, quand dans le privé, c'est 3. Et qui paye les jours de carence en général ? Soit c'est l'État, 16 milliards, soit c'est les entreprises. Aujourd'hui, il faut peut-être trouver un juste milieu. Est-ce qu'il faut aller à 8, comme j'ai entendu certaines pistes ? Peut-être qu'il faut trouver un accord. Et encore une fois, je suis toujours le partisan du dialogue avec les entreprises, notamment, qui payent aujourd'hui et qui redoutent de payer encore plus. Mais il y a aussi une réalité dans ce pays. Il y a des arrêts maladie de complaisance, il y a des arrêts maladie injustifiés. Il faut chercher, encore une fois, là aussi, des économies, là où elles doivent être faites. 16 milliards, c'est peut-être pas possible vu l'état des dépenses publiques aujourd'hui, parce que ces 16 milliards utilisés pour les délais de carence, c'est 16 milliards qu'on n'utilise pas pour l'école, pour la santé, pour l'hôpital, pour la police, pour la sécurité. Il faut encore une fois trouver à travers, et toujours ça, avoir ça à l'esprit du dialogue, des solutions pour rationaliser nos dépenses et être utile et efficace pour les Françaises et les Français.
Vous prenez que les gens qui vous écoutent, les électeurs de centre-gauche, se tournent vers Raphaël Glucksmann pour les Européennes.
Mais je crois pas qu'il... Alors déjà, ça n'a rien
Est-ce
à voir.
Est-ce que c'est pas Raphaël... lui qui incarne le progressisme aujourd'hui?
Non, ben non, je ne crois pas, parce que Raphaël Glucksmann, quand il s'agit de taxer les riches, il y a du monde, c'est une solution qui ne mène à rien, parce que taxer les riches, ça ne fait pas revenir de l'emploi, contrairement à ce que Emmanuel Macron et ses gouvernements successifs ont fait. 2,5 millions d'emplois supplémentaires. Il y a 19 000 emplois à pourvoir, ne serait-ce que dans les Hauts-de-France, sur les nouvelles usines et la réindustrialisation de ce territoire. Il peut nous faire le coup du candidat le plus social, il vote à peu près la même chose que nous au Parlement européen. Mmh. Mais on ne change pas de fait de politique sous la pression d'un candidat qui se dit mieux disant que vous. Moi, je vois la réalité des chiffres. Il faut améliorer la situation de nos dépenses publiques et il faut continuer à avoir de l'emploi disponible pour les Françaises et les Français, et ça nécessite des mesures courageuses.
Il faut qu'on avance. Pendant que Gérald Darmanin poursuit ses opérations anti-drogue, l'Allemagne légalise le cannabis récréatif. Est-ce que l'Allemagne ne fait pas preuve de pragmatisme, tout simplement?
Je pense que les deux situations ne sont pas comparables. Nous sommes le premier pays consommateur de cannabis en Europe. On voit qu'il y a des situations particulières dans certains pays. À Malte, ça se passe très bien, qui est aujourd'hui le seul, avant l'Allemagne, à légaliser dans l'Union européenne le cannabis. Avec des situations particulières, parfois aux États-Unis, on voit la Californie, qui était un exemple en la matière, être sous les foudres de la drogue très dure, le fentanyl dans la ville de San Francisco, où il y a un vrai drame sanitaire qui se déroule là-bas. J'ai toujours
Mais en France,
pensé,
est-ce qu'il faut
à
pas
titre
légaliser
personnel, qu'il fallait avoir une réflexion. C'était l'objet d'un rapport transpartisan à l'Assemblée nationale, LR, LREM et LFI, à l'époque, qui avait fait des propositions. Aujourd'hui, je crois que la priorité, c'est que l'ordre revienne dans les quartiers gangrénés par le trafic de drogue. Une fois que nous aurons peut-être avancé sur le retour de la sécurité dans ces quartiers pour les habitantes et les habitants, peut-être aurons-nous la possibilité d'avoir de nouveau ce débat.
Merci. Et je voudrais juste revenir sur une phrase de Valérie Ayé, votre tête de liste. Elle a dit que l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada pourrait continuer à s'appliquer malgré le rejet par le Sénat et un éventuel rejet par l'Assemblée. Est-ce que c'était une bourde? Est-ce qu'elle dit vrai? Ou est-ce que c'est les deux?
Alors,
c'est vrai, mais c'est une bourde.
Institutionnellement, c'est une possibilité. C'était le sens de sa réponse. Bien sûr que personne ne peut présumer du résultat d'un vote qui n'a pas eu lieu, celui de l'Assemblée nationale. Et moi, j'appelle simplement à la responsabilité des députés, notamment les Républicains, sur ce vote s'il a lieu un jour. Et ça fait encore une fois le lien entre nos échanges. Nous entendons matin, midi et soir que nous aurions cramé la caisse, que nous n'aurions plus un euro dans les caisses de l'État. Et les mêmes qui disent ça, les Républicains, nous disent qu'on devrait s'asseoir sur 600 millions d'euros qui rentrent dans nos caisses grâce à ce CETA. Allez dire aux producteurs viticoles de lait, de fromage que le CETA, il faut le remettre en cause.
Mais donc même s'il est rejeté par l'Assemblée,
non.
Il pourra s'appliquer quand même.
Moi, je ne me
place
pas.
Mais oui ou non, c'est ça la question.
Il y a des principes institutionnels qui permettent ce genre de procédé. Moi, je suis absolument opposé au fait que nous nous appuyons sur ces procédés. Je souhaite qu'il y ait un vote à l'Assemblée nationale et que chacun sorte des postures démagogiques et qu'on puisse voter en conscience sur ce texte qui est important pour nos agriculteurs. Sortons des postures. Aujourd'hui, vous avez l'alliance de la carpe et du lapin, des communistes et des républicains qui votent ce texte en pleine élection européenne. Allez comprendre et allez surtout expliquer s'ils rejettent ce texte aux agriculteurs, aux producteurs de fromage, de lait, aux viticulteurs, qu'ils vont s'asseoir sur 600 millions d'euros de recettes supplémentaires par an. On est cul par-dessus tête, pardonnez-moi l'expression, mais il faut parfois savoir le dire.
Merci Loïc Signor, porte-parole de Renaissance,
Merci
d'avoir répondu aux questions de France Info.